Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 86e épisode de Torréfaction. Torréfaction, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec notre petite sélection de l'actu, une sélection de l'actu que je réalise avec mon ami Kef. Salut Kef.
Hello Faskill.
Est-ce que ça va bien?
Oh écoute, une méga patate. Là aujourd'hui, je suis vraiment au taquet, tu vois, je suis réveillé, les neurones parfaits, je suis ready to go.
Une fois n'est pas coutume, on va ouvrir avec un rant de Jean-Pierre Kef, parce que tu voulais absolument en parler. T'as eu des petits soucis, on va dire, du côté professionnel.
C'est pas vraiment un rant, mais j'espère que tu auras le temps de caser ce jingle.
On va me dire oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette parce que ça c'est honteux, ça c'est de la merde.
Si vous avez des gens, des amis, des clients, de la famille qui un jour vous demandent « Ah, je mettrais bien mon logo dans ma signature », envoyez-les tout de suite chier. Mais vraiment, c'est important. Sauvez votre temps libre, il est précieux, parce qu'à la fin, je vous rappelle qu'on meurt. Et du coup, pour comprendre le problème, c'est qu'il faut savoir que pour faire une signature avec un logo, quand on te propose ça, donc évidemment, pour la petite histoire, j'ai un client qui m'a dit « Ah, ça serait quand même pas mal, regarde, il y a Bidule qui fait ça et tout. » Et là, tu rentres dans un des cercles de l'enfer, je sais pas lequel, hein, je vous laisse choisir. Parce que, en fait, il faut faire une signature en HTML. Pourquoi?
Ouais.
Parce que si vous faites votre petit truc en logo, tu sais, en faisant un coupé-coller trop mignon, ouais, en faisant un truc dans ton éditeur de mail, dans ton éditeur de signature, dans Apple Mail ou dans n'importe quel truc du genre, eh bien, ça ne va pas bien marcher. Ouais, la première réponse, en fait, ça va partir en vrille. Hein. Le truc va ressembler à rien, le logo va être déformé, il va disparaître, etc. Sans compter que envoyer une image en fichier attaché, parce que ça, vous avez voulu mettre votre logo dans votre signature, c'est peine de mort dans certains pays, en tout cas j'espère. Donc il faut faire un truc en HTML avec l'image hébergée sur un serveur, etc. Et là les enfants, je vous le dis, il n'y a pas de standard en fait dans les clients mail et dans les services mail pour ce genre de conneries, tu vois.
Ouais.
Donc chacun le gère à sa sauce et c'est un bordel monstre. Alors j'ai découvert qu'il y avait 1 milliard de mecs qui avaient bien sniffé la bonne affaire, donc t'as plein de sites web qui te proposent pour la modique somme de $50 de faire ton truc et de l'héberger,
okay,
avec l'hébergement des images et tout. Mais quand je dis 50, j'en ai bien trouvé 10 avec une recherche Google de 3 secondes et demie, tu vois. Donc là, tu fais « Ah, je pense que c'est un problème qui a
c'est ça,
vraiment fait chier du monde, tu vois. »
Les mecs qui ont fleuré le bon business plan, quoi.
Mais c'est génial. Et j'ai découvert des mecs avec des trucs genre « Non, mais que pour Office 365, pour Exchange, etc. Ah, vous utilisez tel truc. » Et donc après, le génie, c'est, tu sais, Apple, la boîte qui fait des trucs hyper simples pour tout le monde parce que vraiment, on veut aider nos users. Donc, pour faire une signature HTML dans Apple Mail, il faut finir en ligne de commande, en fait, hein, pour aller copier des fichiers, les bloquer, pour pas qu'Apple Mail aille les rechanger derrière toi, dans ton dos, etc.
Misère.
C'est génial. Alors, je voulais dire de tout l'amour que j'ai, encore une fois, pour Spark, que j'avais testé, je crois que c'était la semaine dernière, ou il y a 15 jours, pour la version Android, où il y a, dans la signature mail, un petit onglet HTML, tu cliques, tu mets ton code HTML, voilà, c'est fini, merci. Au revoir, ça fonctionne.
Et tu payes pas $50.
Et c'est gratuit. Et là, tu fais genre, oh là là, c'est merci les gens, mais bon, je vais pas faire migrer tous mes clients sur le truc. Donc voilà, quand on vous dit ah oh là là, mais regarde le petit logo à côté, c'est trop joli, je voudrais la même chose, tu fais non. J'ai résisté pendant très longtemps avec ce client, je le savais en vrai, mais putain là, il a fallu, c'est génial. Et là, je viens de découvrir un truc rigolo, c'est que du coup, en fait, quoi que tu fasses, ça ne marchera pas avec les gens qui ont décidé d'avoir leur OS en fond noir, tu sais,
ah ouais,
avec le mode sombre. Bah non, généralement ta signature en HTML, elle va être avec un bandeau blanc dégueulasse, et tu ne peux rien y faire. Il n'y a aucune info hein, qui gère ça, c'est juste qu'il détecte que c'est du HTML, il fait genre ça doit être fond blanc ça, allez go, et voilà, donc c'est génial hein. Et bon, je suis payé pour ça les mecs hein, mais c'est un petit peu, tu vois, c'est un petit peu stressant quand même.
Ouais, tu
ne le faites pas faites des signatures simples et n'imprimez pas vos mails, merci pour les armes.
Voilà la fin de ce rant, ça va mieux.
Ah,
et ben on peut passer.
C'est génial. Alors, faut savoir que pour la petite histoire, j'ai pas fini cette mission, tu vois, entre guillemets, mais ça fonctionne. J'ai fini d'aller sur des sites un peu obscurs
de 2014,
le dark web, qui les mecs t'expliquent. Attends, c'est hyper simple, tu vas voir. Et en fait, non, c'est c'est jamais hyper simple et ça change de chaque à chaque client. Mais vraiment, je préfère faire des sites entiers parce que le web, c'est simple à côté de cette connerie.
Tu m'étonnes. Allez, on passe à notre sommaire. On va commencer juste par un petit rappel hein, pour ceux qui l'auraient loupé. Donc, je voulais signaler qu'il y a un nouvel épisode de Dans le Canap qui est sorti cette semaine. Et oui, ressurgit d'outre-tombe avec en invité Michael Vincent, l'auteur du livre Le banquier et le citoyen. Donc, si ça vous intéresse d'aller nous entendre parler finance, crise des subprimes, politique, mais vous allez voir, finalement, c'est très intéressant. Eh bien, n'hésitez pas donc à vous jeter sur ce dernier épisode de DLC. On attaque le gras du sommaire avec notre section gaming et je voulais vous parler de Dollhouse. Si vous ne saviez pas quoi faire ce week-end, il y a la version bêta qui vient d'être mise en ligne. Qu'est-ce que c'est Dollhouse? Eh bien, rien à voir avec la série de Joss Whedon. C'est un jeu d'horreur.
C'est ça. Elisa, si tu nous écoutes.
Non, il n'y a pas d'Elisa Douche-Cou dans le jeu. Donc, c'est un jeu d'horreur à la première personne inspiré des films noirs. Alors, j'ai regardé un peu, on n'a pas pu y jouer évidemment encore pour le moment, mais j'ai regardé un peu la vidéo de présentation. Ça a l'air assez barré. Ça a l'air d'être une espèce de jeu d'aventure, exploration avec des petits jumpscares, des petits trucs un peu chelous. Une ambiance assez particulière qui m'a fait un peu penser à l'ambiance de Bioshock. Alors, c'est pas du tout le même gameplay, mais en termes d'atmosphère un peu pesante, un peu noire. Du coup, le jeu est en noir et blanc aussi, a priori, en tout cas dans les images qu'on voit sur les vidéos de présentation. Ça a l'air assez particulier, donc je me suis dit que
Moi, j'ai rien compris, hein.
Voilà. C'est mystérieux, on va dire.
C'est très mystérieux.
Donc, si vous ne saviez pas quoi faire ce week-end, il y a donc une version bêta qui va être mise à disposition sur Steam. Cette version bêta est une démo, en fait, qui contient les deux premiers chapitres du mode solo et deux maps multi jouables de 2 à 8 joueurs. Pour y participer, c'est assez simple et un peu tricky en même temps. Il faut se rendre sur le site officiel du développeur et cocher, donc, en fait, trois cases sociales. Tu sais, t'as plusieurs possibilités. Tu peux soit les follow sur Twitter, retweeter un truc et tout. Heureusement, il y a ils font cliquer que trois et il y a trois cases sociales que tu peux cliquer. Où il suffit de visiter en fait des sites. Donc tu vas sur leur page Facebook, hop, ça te valide le truc. Tu vas sur leur page Instagram, ça valide le truc. Tu vas sur leur page YouTube, ça valide aussi. Et après, tu peux récupérer une clé que tu rentres dans Steam et qui te permet donc de télécharger la bêta qui sera activée à partir d'aujourd'hui et qui se terminera mercredi le 17. Donc voilà, si vous voulez venir jouer au map multi avec nous, peut-être éventuellement passer sur le Discord de Geekzone. On va sûrement tester ça ce week-end si on n'a rien d'autre à faire, si on n'a pas des signatures HTML à finir.
Non, j'ai pire après. J'ai un livre blanc à terminer. Et je vous donne pas le sujet parce que ça va faire encore un jingle rant et tout. Ça, les mecs, ils vont se dire oh le pauvre et tout. Non, franchement, c'est bon.
Voilà, Dollhouse. Donc, on vous linkera un papier de nos amis de Nofra qui parlent du jeu. Et puis, on vous linkera aussi l'endroit sur le site où il faut aller cliquer pour récupérer les clés de cette bêta. On reste dans le gaming avec des nouvelles du côté de Elite. J'ai l'impression que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de news.
Non, ça continue son petit bonhomme de chemin. Elite, c'est le genre de jeu qui sort des vrais trucs déjà, donc il n'y a pas d'effet d'annonce contrairement à certains titres dans l'espace qui vous demandent de l'argent
et beaucoup
d'argent pour rien d'ailleurs. Bref, du coup Elite, ils font leur travail, ça change de plein de gens et il y a donc l'annonce qui est tombée sur ce qu'il y aura dans l'update d'avril et qui vraiment, enfin les mecs sont malins parce que tu vois, ils continuent de faire évoluer des pans du jeu qui sont importants alors qu'on les a oubliés. Alors certains diront, et ils n'auront pas complètement tort, il était temps de changer 2-3 trucs les mecs sur ce qu'on appelle la quality of life en anglais. Donc vraiment des trucs qui vont vous faciliter la vie pour profiter du jeu, et le patch d'avril va changer des choses hyper importantes pour eux pour l'avenir, déjà parce qu'ils vont changer tout le début du jeu pour les nouveaux joueurs pour faciliter leur arrivée avec des univers entièrement dédiés à eux avec des missions particulières, que des trucs faisables avec un sidewinder de base tout pourri, donc c'est le vaisseau vraiment que tu as quand tu commences le jeu.
Tu sais que tu veux faire le réinstaller avec tout ça. Hein.
Franchement, pas tout de suite parce que ça sort le 23 avril, donc du calme. Mais le 23 avril, donc tout ça va partir en production et ça va vraiment modifier le comment ils vont vendre le jeu, si tu veux. Et je pense que c'est plutôt malin. Maintenant, j'espère qu'ils ont bossé la transition entre ce côté bisounours hyper protégé des nouveaux joueurs et le moment où on va te dire bon, ça y est, mon gars, maintenant tu vas dans le grand bain, ça va bien se passer. C'est pas très clair de ce point de vue-là, on verra bien. En revanche, pour les gens normaux, entre guillemets, qui jouent déjà régulièrement, etc., ils ont rajouté des trucs de feignants que j'adore, vraiment, particulièrement, entre autres mettre un ordinateur pour pouvoir... on a déjà un ordinateur qui permet de se docker aux stations spatiales automatiquement, où tu peux lâcher le manche et espérer que tu te crashes pas, parce que des fois, c'est un petit peu compliqué. L'algorithme, il voit pas bien certains gros vaisseaux. Donc, il faut quand même rester pas trop loin de son PC. A priori, ça a été amélioré. Donc, ça, c'est cool. Et puis, surtout, ils ont rajouté le fait de pouvoir sortir de la station aussi grâce au même ordinateur automatiquement. Alors ça, c'est hyper gentil parce qu'effectivement, ça permet de se faire un café pendant que ton truc... quand tu fais plein de missions où il faut faire du trading et que tu te balades de base en base. Alors bon, je sais qu'on est tous un peu fans de Truck Simulator de temps en temps, mais le truck de l'espace, enfin le camion d'espace, ça va bien deux minutes. Et j'avoue que ça, c'est un truc que ça ne manquera pas du tout, surtout quand tu pilotes les grosses baleines. Il y a des vaisseaux qui sont vraiment chiants à piloter quand tu es dans ces phases-là. Ça ne me manquera pas. Et puis évidemment, ça se désactive d'une pression sur un bouton. Donc si vous voulez le faire à la main pour rigoler une fois de temps en temps, il n'y a pas de souci. Ils ont rajouté plein de trucs du style Super Cruise Assist. Alors c'est pareil, c'est un truc qui va vous aider à piloter tranquillement en Super Cruise. Et donc à vous, ça c'est génial parce que tout mec qui a joué à Elite un jour dans sa vie a connu le problème. Ce qu'on appelle la Loop of Shame en anglais, c'est-à-dire la boucle de la honte. C'est quand tu rates ta station spatiale parce que t'es arrivé à toute berzingue vers la station et que t'as pas freiné à temps et que tu fais genre je vais aller et toi. Ah ben j'ai raté. J'ai encore raté.
Alors, tu vas rire, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai lâché l'affaire au début, en fait. C'est que les premières fois où j'ai essayé de faire du voyage à vitesse, je sais pas quoi, subliminique, machin, et à chaque fois, je passais à côté de la planète, et au bout d'un moment, je fais OK, fuck it.
Ça
je vais
saoule.
Faire autre chose.
Parce que, effectivement, alors, c'est expliqué quand tu fais bien le tuto, à quel moment, enfin, comment il faut régler ta puissance sur les moteurs pour pas, en fait, pour stopper l'accélération, en fait, pour pas forcer l'accélération quand t'arrives vers ton point, le point que tu vises. Mais là, du coup, t'as un ordinateur qui va faire le truc pour toi, qui va optimiser tout ça. Donc, c'est des trucs qui permettent de jouer les mains dans les poches et de se concentrer un peu sur l'aspect trading, sur l'aspect donc faire de l'argent. Pendant ce temps-là, tu peux être sur tes sites web pour regarder où vendre tes trucs pour gagner le max. Tu peux évidemment te balader pour aller faire pour aller miner, pour aller faire tes missions de combat, etc. Donc les phases un peu plan-plan de pilotage qui sont, enfin le pilotage dans Elite est la raison pour laquelle je joue Elite. Donc bon après c'est un choix, mais du coup ils offrent le choix de se dire ok on n'a pas envie de se faire chier. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que pour ces modules, enfin ces trucs-là, normalement, prennent de la place dans les modules de ton appareil et t'as pas vraiment envie de les consacrer à ça, normalement. Donc, ils ont rajouté de la place dans certains appareils. Enfin, dans tous les appareils, il y a un module en plus, un espace en plus pour pouvoir les mettre. Et dans les avions, dans les vaisseaux pour les nouveaux dont je parlais tout à l'heure, vous aurez directement ces trucs-là de base dans vos vaisseaux.
Nice.
Et à chaque fois que t'achètes un nouveau vaisseau, maintenant, il y aura ces trucs-là par défaut. C'est une très bonne nouvelle. Bon, après, ils ont rajouté plein de choses au niveau de l'interface pour avoir plus d'informations sur le niveau de danger de la zone où vous êtes, les activités disponibles, etc., etc. Ils ont vraiment, vraiment rajouté plein de choses. Il y a rien de groundbreaking, comme disent les Américains, mais c'est que des améliorations hyper agréables et qui permettent au jeu d'évoluer gentiment. Et surtout, il y a toujours des gros truc de prévu pour la fin de l'année. Donc franchement, ils déroulent leur plan de manière assez fiable. Je suis assez impressionné. Donc si vous aimez l'espace et que vous cherchiez une simulation, ça reste Elite Dangerous, ça reste le meilleur jeu du genre et pour encore un moment.
Allez, on vous linkera donc toutes les nouveautés de ce patch sur les forums d'Elite.
Exactement.
Voilà. On va parler app avec DaVinci Resolve. Alors c'est mea culpa de ma part, hein, puisqu'on n'en avait jamais parlé sur Geekzone et à tort, c'est toi qui m'as relancé sur le sujet.
Exact.
On avait parlé d'Hitflix, non, Hitfilm, pardon, qui n'est pas Netflix, qui est un utilitaire donc qui permet de faire de l'édition vidéo gratuite, pas mal, mais qui n'est pas non plus foufou. Et pour avoir bidouillé un tout petit peu ces derniers jours avec DaVinci Resolve, je confirme que le soft est quand même ultra puissant. D'ailleurs, c'est pas étonnant d'apprendre qu'il est utilisé de manière relativement professionnelle à Hollywood. Il a été utilisé notamment, j'ai vu, sur des films comme Deadpool 2, The Last Jedi ou encore X-Men Apocalypse, alors dans certaines mesures, hein, pas forcément pour faire du montage, mais aussi pour utiliser les différents outils dont il dispose. Alors à la base, c'est un soft de colorimétrie qui avait été lancé en 2003. Donc colorimétrie, tu sais, c'est le truc pour s'assurer que ton film sur la longueur a la même teinte en fait, et que t'as pas des trucs qui clashent.
Et puis que ça soit joli.
Et puis que ce soit joli aussi, tout simplement. Qui s'est peu à peu donc enrichi d'outils de montage, d'outils de post-production, que ce soit du rajout de pistes audio, des effets visuels, etc. Donc il s'est un peu agrémenté de nouvelles choses. Et puis là, la version 16 vient de sortir sortir cette semaine. Elle rajoute encore une nouvelle chose, c'est un onglet qui s'appelle Cut, et qui est un mode en fait d'édition, un mode de montage qui est dédié en particulier aux gens qui doivent faire du montage rapide sur des séquences assez courtes. C'est par exemple les gens qui font de la pub, ou alors les youtubeurs qui font des petites vidéos de 10 minutes. Ils ont besoin d'avoir un accès facile en fait à tous leurs outils, d'avoir une visualisation efficace de leur timeline en fait vidéo, et cet onglet est vraiment dédié à ces gens-là qui ont besoin de bosser aussi en nomade sur des petites configurations où il y a des petits écrans. Quand t'as pas tes deux écrans ou ton grand moniteur qui te permet d'avoir accès à toutes les infos, bah là il y a un truc spécifique qui te permet de tout condenser facilement. Il y a plein d'autres choses, hein. Je vous passe tous les détails. C'est effectivement un soft qui est ultra complet et qui existe non seulement donc en version gratuite qui est complètement fonctionnelle, mais alors en plus si vous voulez mettre la main à la poche, il y a une version payante qui coûte $299, on va dire 300, et qui rajoute plusieurs fonctionnalités assez intéressantes, dont des outils qui sont basés sur l'intelligence artificielle et le deep learning. Ils appellent ça le DaVinci Neural Engine, pardon. Je me suis trompé.
Ah, ça me fait plaisir que tu fasses l'erreur et pas que moi.
Il fallait que ça m'arrive aussi. qui permet par exemple de faciliter la navigation dans les longs projets, de mieux gérer tout ce qui est upscaling, de faire de la reconnaissance faciale. Si par exemple tu as des interviews, tu lui dis ça c'est bidule, et il va regarder les autres vidéos, les autres clips que tu as enregistrés, il va dire tiens, j'ai deux ou trois autres vidéos de bidule aussi, si tu as besoin tu peux les utiliser. Donc c'est assez pratique, et tout ça pour 300 balles. Je trouve que c'est pas cher, surtout quand tu compares au prix du marché. Non, si tu regardes bien, ouais. Vegas, qui est quand même, je trouve, assez surfait, coûte quand même 600 balles à prix plein. Curieusement, il est en promo en ce moment à $300. Je sais pas pourquoi, c'est sans doute un hasard.
Oh là là, quel timing incroyable.
Mais donc voilà, testez la version gratuite qui est déjà ultra complète, et si vous voulez les fonctionnalités avancées, je sais que sur la version payante, il y a aussi moyen de travailler à plusieurs sur un projet, donc de faire du collaboratif. Ça, c'est plutôt intéressant si vous bossez sur un gros projet qui implique plein de gens. Voilà, on vous linkera le papier donc que j'ai rédigé cette semaine sur Geekzone, et qui vous donnera donc les infos et les liens qui vont bien pour aller récupérer la version gratuite de DaVinci Resolve. On reste dans les apps et on reste dans la vidéo avec Smart YouTube TV.
Oui, alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là ?
Bah justement, je te le demande.
C'est un client pour regarder YouTube sur ta télé sans te faire chier avec le truc qu'on appelle les publicités. Tu sais, tu rappelles les publicités que YouTube aime beaucoup en ce moment, et qui sont pas zappables, hein, on ne va pas se mentir, avec les applications officielles que vous avez sur Android Shield, sur une Apple TV, etc. L'avantage des box télé Android avec Android TV, c'est que comme vous supportez une interface qui est quand même pas magique, vous avez quand même le droit de bricoler des trucs, et ça c'est vachement bien. Vous pouvez donc rajouter des fichiers APK, donc vous pouvez installer des applications sans passer par le store officiel. Les points APK, je rappelle que c'est le nom des applications Android, et l'équivalent des exe sur Windows. Le fait de pouvoir installer des trucs comme ça en rusant, ça permet donc d'aller chercher des choses sur des sites un peu obscurs ou pas, hein. Je vous conseille de faire attention où vous mettez les pieds quand même.
C'est là que ça devient dangereux, effectivement.
Voilà. Donc Smart YouTube TV, c'est un projet qui est hébergé sur GitHub. Les sources sont disponibles, vous pouvez le compiler vous-même. Donc il est safe, ça a été vérifié par plein de gens. Et en gros, c'est un truc qui a été fait par des gens qui non seulement voulaient pouvoir regarder YouTube sans les pubs, mais surtout sans compte Google, qui ne sont pas forcément disponibles dans certains pays où ça peut poser problème, etc. Donc ils voulaient pouvoir installer ça tranquillement. Pourquoi j'en parle comparé à d'autres applications qui existent, en fait, il y en a plein que vous pouvez installer sur vos téléphones pour pas vous taper les pubs sur Android. C'est uniquement parce que c'est le seul qui est vraiment très bien adapté à une visualisation télévision. Ils ont repris les codes de l'application officielle et ils ont fait leur truc dans leur coin. Ça marche très bien. J'ai fait une petite news sur Geekzone pour vous expliquer comment l'installer facilement avec un excellent gestionnaire de fichiers qui ne vous espionne pas et n'essaye pas de vous fourguer de la pub à chaque fois que vous appuyez sur un bouton, ce qui devient de plus en plus rare sur Android, ce qui est insupportable. Et qui s'appelle Explore File Manager, vous avez le lien toujours sur la même news. Donc voilà, je vais pas m'étendre plus que ça, c'est juste ça fonctionne parfaitement bien, et c'était en réaction au fait que moi j'ai un dossier dans les tuyaux depuis bien trop longtemps pour Geekzone sur un truc qui s'appelle Pi-hole, qui est en fait un espèce d'anti-pub qu'on met sur son réseau et qui va absorber les pubs qui se baladent un peu partout, ce qui permet d'esquiver pas mal de choses sur vos applications iOS, etc., quand vous surfez avec votre téléphone.
C'est le truc que t'installes sur un Raspberry Pi, c'est ça?
Voilà. Alors, à la base, c'était, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, et à la base, c'était que du Raspberry Pi, mais en fait, on peut l'installer sur n'importe quoi maintenant. D'accord. Ils ont fait des versions pour ordinateur, tu peux le mettre sur ton Windows, etc., etc. Donc, c'est un truc que je veux détailler sur Geekzone depuis un moment, j'ai pas eu le temps de le faire, mais bref, je me suis aperçu qu'en fait, ça ne marchait pas du tout sur les produits de monsieur Google, puisque maintenant, YouTube, en fait, tu peux plus lui dire de bloquer tel ou tel domaine pour les pubs, puisque tout passe par le même domaine, en fait. Donc, tu peux pas ruser, et les bloqueurs de pubs dans nos navigateurs utilisent un autre système pour les bloquer, ce qui n'est pas possible en fait avec un système comme Pi-Hall. Bref, avec cette application, le problème est résolu et ça fonctionne très bien. On peut forcer la qualité des vidéos, donc on n'a pas l'effet sous pixel au démarrage, le temps que YouTube se rende compte que finalement il y avait assez de bande passante. Donc voilà, ça marche très très bien. Je vous laisse aller regarder ça si vous avez une box Shield, ça doit marcher sur les box de Xiaomi, etc. Donc je vous laisse de Xiaomi. Moi,
Bon, on va dire Xiaomi, très bien.
Xiaomi, bonjour. La Mi Box, je sais qu'elle est très 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 peu chère et qu'elle est assez aimée à cause de ça.
Et on reste dans les apps avec des news du côté d'Opera qui lance un nouveau navigateur, c'est ça ?
C'est juste, alors, nouveau nom, mon ami, tu sais, Opera avec leur 2,73% de part de marché, ils se permettent pas de lancer des trucs tout nouveaux, c'est l'évolution du navigateur qu'on connaît actuellement.
D'accord.
Ils ont juste un côté marketing où ils appellent ça, ça me fait beaucoup rire, c'est le Reborn 3, tu vois, ça c'est le marketing, c'est on renaît pour la troisième fois, tu vois, c'est Jésus-Christ, cri, quoi, tu vois,
c'est un personnage Marvel, en fait, c'est pas un browser.
C'est ça, c'est un reboot du mec, mais en fait, il était mort, mais il est plus mort, il revient. Donc ils sont toujours pas morts, voilà, ils sont vénères pour le coup, et en fait c'est la version 60 officiellement, on en est déjà à la version 60, on en somme peu de choses, ça évolue très vite chez Opera, les numéros de version ils s'en foutent un peu, ils ont rajouté plein de choses. Alors j'en parle pourquoi, parce que bon, déjà c'est un navigateur à base de Chromium, donc qui fonctionne très bien sur 99,9% des sites web, il est toujours aussi gratuit. Apparemment le rachat par une boîte aux capitaux chinois n'a pas complètement vrillé le truc, ça c'est toujours géré dans nos pays nordiques adorés. Donc pour l'instant ça se passe pas trop mal, et de base quand tu installes ce truc là tu as pas mal de choses qu'il faut installer en plus d'habitude, déjà un adblock qui fonctionne plutôt bien, alors il est pas au niveau d'AdGuard mais il est quand même très efficace, tu as un VPN que tu peux déclencher à volonté, alors qui n'est pas, c'est pareil, à chaque fois tu peux trouver des produits dédiés qui vont être mieux, etc., mais souvent payants, et enfin d'ailleurs si vous avez un VPN pas payant c'est que vous vous faites avoir, faites très attention,
j'allais le dire, ouais. Non, mais là c'est bien attention. Du coup si t'as un besoin ponctuel d'aller sur un site où t'as une vidéo qui est bridée parce que t'es pas sur le bon territoire, ça peut être intéressant,
voilà. Alors après, comme c'est pas un VPN de ouf qui fonctionne au niveau de ta couche réseau, ça peut quand même être bloqué, ça dépend comment ils ont réglé le truc de l'autre côté, mais voilà, c'est une première étape qui vous évite d'avoir à installer un gros truc derrière, donc c'est plutôt cool. Et puis il y a un truc qui ne sert à rien, que je déteste, mais qui est quand même dedans, c'est un portefeuille de crypto-monnaie qui est à l'intérieur, qui avait fait ses débuts sur la version Android, qu'on retrouve maintenant sur la version desktop, donc sur Linux, macOS, Windows, puisque cette version est dispo partout. Évidemment vous n'êtes pas obligé d'activer ce genre de choses, et ils ont gardé dans leur barre latérale les petits raccourcis vers Messenger, Telegram, que vous pouvez pareillement utiliser ou pas. Voilà, ça fonctionne très bien. Moi, je l'utilise pour gérer quelques sites que j'ai besoin d'avoir sous les yeux sans arrêt, et c'est pas pratique d'utiliser mes navigateurs standards pour ça. Et j'avoue que ça crache très peu, ça fonctionne bien. Le navigateur est vraiment solide. Donc voilà, c'est 2,73% de la population, mais ils sont toujours là. Et là, il va falloir qu'ils se battent avec toujours les mêmes. Je crois que même Vivaldi est passé devant. Enfin, je regarde, je suis pas sûr, cela dit. Mais bon, les gros qui sont Safari, Firefox, Edge et évidemment Google Chrome leur font très mal. Et je rappelle au passage qu'il y a la première bêta de Edge version chromifiée qui est disponible si vous êtes un aventurier. Je voulais en parler parce que déjà, là-bas, c'est toujours Edge en fait, donc ils ont gardé vraiment le même look. Et Microsoft a fait un gros boulot de dégooglisation. Je sais pas, dégooglisation, oui. Comment tu veux dire ça, c'est moche, mais bon, c'est pas grave.
C'est très bien, les gens comprennent, c'est le principal.
Voilà, donc ils ont enlevé tous les services qui sont en fait que des trucs Google qui servent principalement à nos amis de Google, et du coup on a un produit qui normalement devrait être assez léger, et ne vous leurrez pas, hein, ils vont après dans un deuxième temps mettre les outils de monsieur Microsoft.
Ah bah oui, forcément.
Puisque c'est le but. Mais écoutez, ça prend une direction assez intéressante, et puis je crois que de toute façon Microsoft en avait ras-le-bol de courir après les modifications pour optimiser le web. J'ai fait des air guillemets à côté de mon micro, les optimisations de M. monsieur Google sur le web où il demande rien à personne, qui commençait à casser sévèrement les pieds à Microsoft. Donc voilà, écoutez, c'est à suivre de très près. Je crois que ça sera dispo pas avant la fin de l'année, en version à peu près stable dans Windows. Faut que je regarde les dates, mais je crois qu'ils veulent aller assez vite sur ce projet.
Bah, il y a intérêt, ouais. On passe du côté de la culture. On en avait déjà parlé dans Torréfaction des futures mini-séries MCU sur Disney+, donc du Marvel Cinematic Universe.
On va en bouffer, hein.
Et ouais. Et à l'approche de Endgame, donc le chapitre final de la saga Avengers, en tout cas pour le moment, hein, qui sort le 24 avril, si je ne dis pas de bêtises, ben, on commence à avoir un petit peu plus d'infos sur ces fameuses séries télé. On rappelle donc que ce sont des séries qui sont développées par Marvel Studios et pas par Marvel Télévision, donc rien à voir avec Agents of S.H.I.E.L.D. ou les séries Netflix, qui sont prévues sur 6 à 8 épisodes en fonction des séries et qui seront donc directement pour le coup collectées avec le MCU ciné et pas de manière très distante comme c'était le cas avec les séries de télé, avec pour financer tout ça un budget qui sera l'équivalent d'un film du MCU pour une série complète, donc c'est quand même pas mal, on va être autour des 200 millions, 250 millions de dollars. Alors rien n'a encore été annoncé officiellement, ça n'a pas empêché l'ami Kevin Feige, qui est le patron de Marvel Studios, d'en parler déjà. On sait notamment qu'il y aura une série Loki, donc ça en avait parlé, hein, qui raconte les aventures du frangin de Thor à travers l'histoire, une série Scarlet Witch et Vision, une autre sur le duo Winter Soldier Falcon, ainsi qu'une série, et ça on l'a pris récemment, What If, qui est inspirée donc des comics du même nom. Je sais pas si tu vois ce que c'est, les comics
c'est mes préférés, ce sont mes préférés. C'est les univers alternatifs.
C'est ça, c'est qu'est-ce qui se passerait si Bidule rencontrait machin, ou si Spider-Man était un bad guy. Enfin, il y a plein de possibilités, et donc ils vont explorer cette voie-là aussi. Et la dernière annonce, et c'est celle dont je voulais vous parler aujourd'hui, qu'on a appris via une source relativement sûre, qui est Variety, en l'occurrence, il y a une série donc axée autour du personnage de Hawkeye, qui serait également en développement, donc toujours avec les acteurs des films, hein, donc avec Jeremy Renner, et avec a priori l'arrivée de Kate Bishop, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas les comics, la version féminine d'Hawkeye, qui prend un peu la relève de ce bon vieux Clint Barton, donc voilà, qui pourrait normalement débarquer sur Disney+. On n'a pas d'infos supplémentaires pour le moment, mais on peut s'attendre à une grosse vague d'annonces côté Marvel Studios après la sortie d'Endgame, donc une fois qu'ils auront clôturer le chapitre Avengers, sans doute via une conférence dédiée, comme c'était le cas pour la phase 3, hein, c'était en octobre 2014, je crois, où ils avaient fait une espèce de grosse conférence d'une demi-heure assez cool.
Me demande pas à moi,
cool.
C'est toi qui fais les livres.
C'est vrai. Je cherchais un peu d'appui, mais finalement, non. Donc voilà, je voulais vous parler de cette nouvelle mini-série donc consacrée à Hawkeye. Je suis sûr que ça va faire plaisir à notre ami Archeon. Et puis, on va terminer avec de la news tech et un clavier miniature qu'on attend depuis un petit moment, a priori.
Alors, ça me fait délirer parce que ça, c'est de la vraie news comme on les aime, de la news de 2014, tu vois. Alors, non, j'exagère, de la news de 2015. Actu chaude dans vos régions. Excusez-moi, quand je fais cette vanne et que vous savez pas à quoi je fais référence, c'était un menu dans le relooking de Game Cult qui était juste fabuleux et que la direction a décidé de virer à un moment et ça me fait vraiment très, ça me fait du mal, j'aimais bien. Bref, alors, de quoi on va parler? On va parler de TextBlade, qui est un clavier qui est tellement génial que tu te dis ça ne marchera jamais. Et en fait, ça marche du feu de Dieu, sauf que bah, c'est toujours pas disponible à la vente dans le grand public. Ah. Alors, je vais vous linker un papier qui résume toute l'histoire sur Apple Insider. Et en fait, c'est quoi TextBlade? C'est un tout petit clavier en trois parties qui tient, mais c'est moins gros qu'un paquet de clopes, grosso merdo, qui se déplie en fait. C'est un truc qui se démonte. En fait, t'as une partie qui sert en fait à poser ton téléphone, qui sert à garder les trois parties ensemble quand tu l'as démonté. Mmh. Et en fait, tout est magnétique, donc tu déplies les trois parties, en fait, tu les prends et tu les poses sur ta table et en fait, elles vont se coller magnétiquement les unes aux autres. Et ensuite, tu tapes avec tes petits doigts sur ce mini clavier qui a en fait la même disposition, enfin le même espacement de touche qu'un clavier normal, ce qui est assez incroyable vu la taille du bordel, mais ça marche. Mais pour ruser, en fait, ils ont fait un truc assez rigolo, c'est que physiquement, tu n'as que 8 touches en fait, mais avec l'intelligence artificielle, non je déconne, avec juste un bon vieux software qui fait son boulot, tu as en fait un système de détection multi touch qui permet de savoir sur quelle lettre tu es censé être en train d'appuyer.
D'accord.
Et ils ont inventé un système de switch à l'intérieur qui est bah, déjà moins pourri que le système de monsieur Apple sur les derniers MacBook, donc on les remercie, et qui garde en fait une course de touches qui est plus importante toujours que les derniers MacBook. Mmh. Si vous n'avez pas compris, je déteste les claviers des MacBook depuis plusieurs années.
On vous invite
maintenant
à écouter l'épisode de la semaine dernière où on en parle en long et en large.
je suis un peu furax, surtout que je suis en train encore d'en configurer un pour un client là, et vraiment ce clavier je peux pas, bref. Et du coup, tu as un petit bordel qui va permettre de bosser sur ton téléphone, sur ta tablette, etc., qui tient dans la poche, donc qui tient dans un sac, enfin que tu es vraiment, tu te prends pas la tête avec, et qui fonctionne en Bluetooth de manière hyper simple, qui avec une autonomie assez violente. La problématique de ce produit de rêve, c'est que c'est un produit qui a été kickstarté en 2015. Et là, il y a des mecs qui se sont dit, oh là là, Kickstarter 2015, on est en 2019, le truc est pas dispo, ils sont forcément partis avec la caisse. Pas du tout. En fait, c'est une boîte qui fait pas du tout de device comme ça, là-bas. C'est des mecs qui font du scanner 3D pour des trucs de films, pour des effets spéciaux. Ils ont bossé sur Rogue One, par exemple.
D'accord.
C'est une vraie, vraie boîte, mais les mecs avaient vraiment envie de faire ce truc-là, a priori. Et c'est, en fait, une société qui a décidé de faire les choses très, très bien. Genre, ils ont en fait un forum avec des bêta-testeurs qui ont déjà le produit, qui disent ça marche pas, ça fait un an que je l'ai le clavier, ça maintenant ça part en couille complet, il faut absolument changer ce truc là. Et par exemple, il y a des petits pieds apparemment en dessous le clavier qui étaient dans une matière qui avait tendance à se barrer tout bêtement. Donc c'est le genre de truc qu'ils sont en train de refaire, tu vois, ils font des itérations avant de mettre le truc en vente en masse dans le grand public, parce qu'en fait tu peux déjà l'acheter avec un site web qui fleure bon les années 90 d'ailleurs ou le Skymorphism tu vois, t'achètes dans une interface d'iPad, tu vois, ça te donne une idée de la gueule du site web.
Okay.
C'est immonde, en plus avec genre un look de iOS 6, tu vois, donc le truc qui a pas évolué depuis très longtemps, qui était déjà vieux quand il est sorti, je pense. Et en fait, tu les mecs te disent, tu peux le pré-order pour $99. Bon, on oublie de te dire quand est-ce que tu vas le recevoir, mais tu vas le recevoir, tu vas en avoir un avant tout le monde. Mais le prix final, ça va être beaucoup plus cher que ça. En revanche, le produit existe, il est là, donc je vous conseille d'aller voir la news que je link avec la petite vidéo. Le truc me paraît juste sidérant. Alors, qui a besoin de ça? C'est une question intéressante.
C'est ce que j'allais dire.
À laquelle je n'ai pas de réponse tout de suite. Mais si vous aimez bosser si vous avez besoin de bosser sur des coins de table, dans des aéroports, sur des tablettes d'avion où tu peux rien poser, c'est une alternative, en fait, à ce qu'on a sur les tablettes classiques, sur les téléphones. Il n'y a pas d'alternative. Donc, c'est une très bonne alternative pour taper un mail de 4 km avec juste son iPhone ou son téléphone Android. C'est du Bluetooth, ça marche avec tout. Et, la bête est vraiment techniquement hyper intéressante. La boîte qui fait ça s'appelle Waytools, et je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil sur le papier si vous lisez un petit peu l'anglais. L'histoire du truc est intéressante et j'attends de voir si ça va vraiment sortir, parce que pour l'instant, donc je vous rappelle, il n'y a pas de production de masse et c'est un petit outil. Enfin, si vous aimez un peu la technique et les trucs bien geek, je pense que l'histoire de ce petit produit va vous faire marrer.
Et c'est la fin de ce 86e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 8h, pour une nouvelle édition de notre petite sélection de l'actu. D'ici là, on va aller tester Dollhouse, ou tu vas, t'as d'autres signatures HTML à finir.
Alors, j'espère, vous me tiendrez au courant. J'irai sur le Discord pour me changer les idées régulièrement, mais j'ai un truc à rendre lundi. Si vraiment vous vous embêtez et que vous savez pas trop quoi faire de votre week-end, vous pouvez aller lire les pages Wikipédia sur l'Holacracy. Et vous aurez une idée de mon week-end. Vous allez voir, c'est génial. C'est une nouvelle organisation des sociétés, tu vois. Ouais. Une nouvelle façon de manager les gens. Et tu vois, je sens déjà que ça te passionne.
Ouais. Donc je suis en train de piquer du nez déjà.
Voilà. Et moi, j'ai un bouquin à faire là-dessus. Donc, à faire. À relire, recorriger, Ernst, comme disent les Anglais, n'est-ce pas?
D'accord.
Et je m'en régale d'avance. J'ai hâte d'y aller là. Ouh là là. Si, tu vois, j'ai vraiment envie de finir ce podcast parce que vraiment, dès qu'on a fini, j'ai plus d'excuses pour pas aller travailler.
C'est ça.
T'as pas des trucs à me dire, un autre sujet? Non, bon, mais d'accord, ok.
Désolé. Bon courage.
Merci, adieu.
À la semaine prochaine, ciao.
Ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.